Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé » proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux d'accompagnement et d'intelligence collective. Femme des territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, pour du business avec du sens. Et bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux femmes qui entreprennent pour transformer le monde de l'éducation et le doter des meilleurs outils. Une initiative qui est primordiale quand on sait que seuls 3% des marchés de l'éducation est digitalisé et que 65% des enfants exerceront, une fois adultes, un métier qui n'existe pas encore aujourd'hui. Bonjour Marie-Christine Levé.
Bonjour.
Vous êtes l'une des pionnières d'Internet, vous avez dirigé plusieurs entreprises innovantes. Lycos, le moteur de recherche qui cartonnait avant le succès de Google, et à votre départ, Lycos pesait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 200 collaborateurs. Vous avez été également à la tête du fournisseur d'accès Club Internet, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis vous vous êtes tournée vers le capital risque avec le fonds Jaina, pour cette fois financer les entreprises innovantes. Et en 2017, vous cofondez Edu Capital, le premier fonds européen dédié au secteur de l'éducation et de la formation innovante. Vous avez déjà levé une première fois 47 millions d'euros et bientôt, pour un deuxième fonds, 100 millions d'euros. Et vous êtes également au conseil d'administration de plusieurs grands groupes, Maisons du Monde, Iliad ou encore l'AFP. Bonjour Maëlle Chassard.
Bonjour.
Alors vous êtes la cofondatrice et CEO de l'UNI, la fabrique à histoire, cette petite boîte verte toute douce, au bouton jaune, sans ondes, sans écran et qui permet aux enfants de 3 à 8 ans d'écouter et de composer leurs propres histoires en choisissant l'héroïne ou le héros, l'univers et l'objet qu'ils souhaitent. Et cela parmi un catalogue de plus de 300 albums d'histoire, dont 30% en langues étrangères. L'UNI, c'est aussi une très forte croissance avec plusieurs levées de fonds pour un total de 3,5 millions d'euros. C'est surtout 90 salariés, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et vous venez de fêter votre premier million de fabriques à histoire vendues. Ensemble, Marie-Christine Levé, Maëlle Chassard, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie à vous qui nous écoutez de croire en votre imagination, en votre intuition, en votre envie de transmettre différemment, même quand les obstacles autour de vous foisonnent parce que vous avez un temps d'avance. Marie-Christine, on commence avec vous. Vous avez accepté de partager deux moments clés, deux jours où votre vie a basculé. Le premier jour où vous aviez d'abord commencé par le parcours classique pour travailler dans de grandes entreprises, HEC, un MBA, du conseil, des grands noms américains. Et le jour où votre vie a été transformée, nous sommes en 1997, vous avez 30 ans, vous travaillez alors chez Pepsi et vous vous ennuyez terriblement. Vous m'avez même dit « je m'ennuie comme un rat mort » et vous décidez de changer de vie. Racontez-nous.
Voilà, donc je décide de changer de vie. J'ai toujours été passionnée par les médias, par l'écrit. J'adorais lire, j'adorais aller au cinéma. Voilà. Et j'avais envie de travailler dans les médias. Mais en France, on vous met assez dans des boîtes. Et donc, j'avais fait une carrière, comme vous dites, assez prestigieuse, très classique, hein, avec le parcours d'excellence, les grandes écoles, sociétés de conseil, des grands groupes américains. Et voilà, je m'ennuyais fortement dans ce que je faisais. Et on m'avait dit, tu sais, voilà, il faut apprendre à s'ennuyer. C'est c'est ça la vie.
C'est ça la vie, mon
c'est
Dieu.
C'est ça la vie au travail. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Et voilà, un soir, j'ai un ami qui revenait des États-Unis. On était en 97, hein, c'était vraiment au tout début du web. Et voilà, je me rappellerai toujours qu'il vient manger un poulet à la maison et qui me dit mais tu sais, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Voilà, aux États-Unis, tout le monde en parle et tout, c'est le web. Et là, dès le lendemain, j'achète mon abonnement Internet. Voilà, c'était à l'époque, c'était Club Internet avec l'abonnement qui n'était pas ADSL. Hein, pour ceux qui s'en rappellent, c'était le petit bruit qui grésillait. Et on avait un temps limité. Et là, je commence à surfer. Moi qui étais très curieuse, qui adorais lire, je commence à surfer sur tous ces sites de moteurs de recherche. Quoi.
Club Internet que vous alliez diriger plus tard.
Voilà, que j'allais diriger après. Et je me dis, mais dis donc, c'est formidable, tout cet accès d'informations, moi qui adorais lire. Voilà, c'est formidable, ça va changer la manière dont on fait tout, quoi, dont on s'informe, dont on consomme, dont on communique, même si on n'avait pas aucune idée à l'époque des services qui allaient émerger. Et là, de lien hypertexte en lien hypertexte, je vois que Lycos, qui était un des moteurs de recherche, à l'époque, il y avait Yahoo et il y avait Lycos. Hein. Yahoo était un annuaire et Lycos. Lycos lance un communiqué de presse aux États-Unis en disant, on veut amener notre technologie en Europe. C'est un moteur fait à l'université de Carnegie Mellon, hein, comme Google ensuite a été fait sur la côte ouest. Et on veut amener notre moteur en Europe et on va ouvrir des bureaux en Europe. Et je me dis, mais c'est le dream job. Et donc, voilà, j'arrive à contacter quelqu'un chez Bertelsmann.
Et vous n'y connaissez rien en plus.
Je ne connaissais rien en Internet. Moi, je n'étais pas spécialement du tout geek. J'arrive à contacter quelqu'un de Bertelsmann qui me dit, oui, effectivement, on veut ouvrir des bureaux. Et je rencontre deux jours après un Américain qui n'avait jamais mis les pieds en Europe et qui me parle pendant une heure et qui me dit, banco, allez-y, on ouvre l'Écosse avec vous en France. Et à l'époque, l'Internet, il y avait peu de gens. Tous mes copains qui avaient fait les mêmes écoles que moi me disaient, mais va dans une grande boîte, la pub sur Internet, ça va pas marcher, etc. Et les chasseurs de tête, comme j'étais chez Pepsi, me proposaient un job chez Coca. C'est bon, le chasseur de tête est connu pour sa créativité. Et voilà, je me rappelle, je suis allée faire deux semaines de cours d'histoire de l'art à Florence et je me suis lancée dans l'aventure Internet, dans mon petit bureau, toute seule au début. Hein, et puis voilà, après, j'ai recruté la première personne, le premier webmaster, la deuxième personne, et voilà, et on a démarré l'Icos de zéro. À l'époque, je retrouve cette excitation aujourd'hui, mais c'était vraiment le Far West. Il y avait vraiment des gens passionnés un peu par l'aventure. C'était vraiment l'idée de vivre une aventure sur un secteur nouveau, de défricher. Et voilà, et ça a été une formidable expérience. Donc j'ai appris aussi du management, parce que j'avais pas spécialement managé, j'ai appris en faisant. Et voilà, et la société a bien grossi. Alors j'ai connu la bulle, le n'importe quoi. J'ai connu l'explosion de la bulle. Voilà, j'ai connu toutes les périodes, ce qui fait aussi après réfléchir hein, sur certaines choses que l'on peut voir aujourd'hui. Et donc j'ai développé la société. On est monté à une cinquantaine de personnes. On faisait autour de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, on a racheté, alors pour ceux qui sont dans le web depuis longtemps, des sociétés au nom assez emblématique. On avait racheté Caramel, qui était la messagerie sur Internet, Multimania, qui était les pages personnelles. Voilà. Et donc la société s'est bien développée. Et ensuite, moi, je suis passée à une étape autre, puisque à un moment donné, Lycos s'est vendu à Terra, Lycos, aux Espagnols. Et les Espagnols n'ont plus jamais développé la technologie. Et moi, ça m'a donné une croyance fondamentale, c'est que le web, c'est avant tout de la technologie. C'est avant tout, il faut que le produit fonctionne et que l'interface soit facile. Et donc, ils n'ont plus développé la technologie. Et voilà, moi, je suis partie faire une autre aventure et j'ai développé Club Internet.
En même temps, en termes de confiance en soi, on a 30 ans, on a juste une clé, un bureau et on doit développer tout un nouveau métier pour la France et qu'on y arrive, qu'on arrive à faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça doit être pas mal.
Oui, c'était une belle expérience. On oublie de dire que c'est souvent beaucoup de travail, mais une expérience passionnante, enrichissante, puis aussi là, le fait de défricher des terrains inconnus.
Très impressionnant.
Ouais, c'est impressionnant, je suis d'accord. Donc ensuite, Lycos, ensuite vous dirigez Club Internet qui, grâce à vous, passe en 6 ans de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et tout autant de pertes à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, c'est l'aventure Jaina, j'en ai parlé tout à l'heure. Premier fonds spécialisé avec Marc Simoncini. Vous investissez dans Med.com, Oui.car, La Ruche qui dit oui, par exemple. Arrive le deuxième jour où votre vie change fortement, Marie-Christine Levé. Vous passez votre temps le jour dans le monde de l'innovation pure et le soir, en vous occupant de vos fils, vous voyez le fossé qu'il y a avec l'éducation. Et ça, ça met en place quelque chose dans votre esprit, il y a un déclic.
Voilà, oui, alors effectivement, après une période opérationnelle, donc l'ITO, c'était vraiment le début, la création de la start-up de zéro. Club Internet, ça a été ce qu'on appelle aujourd'hui le scale-up, mais c'était voilà, une société qui est déjà assez active, on arrive à la faire grossir, donc c'est la mise en place de process, de management, etc. Et ensuite, j'ai connu aussi une troisième étape de restructuration dans un groupe média. J'ai pas trop aimé la restructuration, c'était pas moi de virer des gens. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marc Simoncini. À l'époque, je voulais reprendre une jeune société et il me dit, mais écoute, moi j'ai créé Jaina Capital, j'ai pas le temps d'en occuper parce que je suis encore sur Mythique. Et donc avec une autre personne, il me dit, est-ce que vous voulez lancer Jaina, qui était un fonds d'investissement, un des premiers fonds d'investissement early stage.
Donc c'était au tout début.
Voilà, au tout début. Donc c'était à l'époque où on était en 2007. Voilà, il y avait un trou de financement entre le business angel et les fonds qui ne regardaient pas du tout les jeunes sociétés. Alors ce trou depuis a été résolu hein, par la BPI qui a beaucoup investi dans l'early stage, mais à l'époque il n'y avait pas d'investissement dans l'early stage. Et donc je découvre ce nouveau métier totalement nouveau du capital risque qui consiste à voilà, interviewer des jeunes entrepreneurs et puis choisir les bons dossiers et ensuite accompagner. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'était l'accompagnement, le fait de transmettre. J'avais pendant longtemps finalement fait des choses et je trouvais que c'était le bon moment de carrière, d'aller dans la transmission et d'aider des jeunes à la fois pas commettre les erreurs que j'avais pu commettre, profiter de mon expérience et puis développer leur société. Et c'est vrai que je voyais toute la journée des gens qui venaient innover dans tous les secteurs, la banque le matin, le tourisme l'après-midi, le lendemain, les taxis. Et je voyais toute la société qui se digitalisait. Et moi, à l'époque, j'avais deux enfants en bas âge, hein, en primaire, et je rentrais le soir chez moi et j'étais là à écrire sur le cahier de correspondance de mon fils qu'il allait être absent le lendemain matin et à la main. Et la professeure répondait et envoyait sur le même petit cahier de correspondance des 30 élèves le même petit mot écrit à la main en disant que demain il y avait une sortie ciné et il fallait donner 2 euros. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ce monde de l'éducation qui ne bouge pas, qui est le même que celui que j'ai connu il y a 40 ans, que même le même que mes parents. En même temps, j'avais un enfant aussi qui avait du mal avec l'école classique, hein, et je trouvais qu'il y avait de plus en plus un fossé entre finalement ce que les jeunes faisaient dans leur vie et ce qu'ils faisaient à l'école, et que ce fossé finalement était une utilisation massive des écrans de manière pas très appropriée, une utilisation massive des outils des GAFAM, hein, puisque aujourd'hui deux tiers de la génération Z considère YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas faire en sorte de profiter de tout ce que l'innovation a fait dans d'autres secteurs pour le secteur de l'éducation. Ça a été quand même un long processus.
Mais on le constate tous, mais on ne se dit pas on va créer un fonds. Voilà. Moi je vais créer un fonds.
Et donc à l'époque, j'étais administratrice du fonds Google pour la presse, donc j'allais souvent aux États-Unis et j'ai vu qu'il y avait des fonds aux US. J'ai commencé à m'intéresser à ce secteur de l'EdTech. J'ai commencé à faire deux investissements aussi chez Jaina et j'ai trouvé ça formidable. Ça faisait du sens. J'avais un peu envie d'investir dans du sens. Je trouve que investir dans des sites de vêtements, c'est super, hein, ça peut générer beaucoup d'argent, mais voilà, ça n'avait pas spécialement de sens. Et j'ai vu qu'il y avait des fonds aux États-Unis qui avaient été créés pour lancer de l'EdTech. C'était eux qui étaient à l'origine de Coursera, etc. Et donc, ça a été un peu une idée folle parce que quand vous n'avez jamais créé de fonds, de lancer un fonds, on vous dit first time fund, first time team, Et donc, ça a été le parcours du combattant, hein, il faut le dire. Donc, l'idée est venue. J'ai assez vite trouvé les premiers 5 millions. Donc, je me suis dit, ça va être facile. C'est un entrepreneur, c'est souvent des serial entrepreneurs qui font confiance à ce moment-là. C'est un entrepreneur, le patron d'Econocom, Jean-Louis Bouchard, qui m'a fait confiance et qui m'a dit, moi, banco, je crois que ce secteur a besoin d'être bougé. Et je vais vous donner vos premiers 5 millions. Et après, ça a été quand même le parcours du combattant. Parce que pour convaincre des gens d'investir dans l'éducation innovante avant le Covid, il a fallu se bouger.
Et vous nous le raconterez juste après. Et depuis, vous avez investi auprès de nombreuses jeunes sociétés européennes qui innovent dans ces secteurs, comme par exemple Live Mentor, 360 Learning ou encore Magic Makers. Et bien sûr, l'UNI. L'UNI, c'est vous, Maël Chassard. Vous avez accepté aussi de partager avec nous un premier moment clé pour votre vie. Ce premier moment, alors vous êtes toute petite, vous avez 5 ans. Vous êtes alors à l'école à Fontainebleau et vous décidez d'exprimer votre imagination concrètement, c'est-à-dire sur les murs de l'école. Vous comprenez alors que la créativité, c'est pas forcément bien vu par tout le monde, c'est ça?
Oui, alors effectivement, j'ai 5 ans. J'aimais bien faire des bêtises, mais
ça c'est normal.
Des jolies bêtises, on va dire. pendant la cour de récréation, je décide d'aller voler des craies de toutes les couleurs sur le tableau dans la classe vide de ma classe. Et effectivement, je dessine sur les murs extérieurs de l'école des énormes portes colorées qui m'emmenaient vers des mondes imaginaires merveilleux. Et moi, j'adorais ça puisque je sautais de monde en monde et je m'inventais des histoires. Et c'était fantastique. Jusqu'à ce que, bien évidemment, je me fasse réprimander par la directrice de la maternelle, qui a même convoqué mes parents et qui a pointé le fait que ça ne se faisait pas. Et effectivement, on est restés, mes parents et moi, très sages à écouter la directrice parler. Et puis en sortant, mes parents m'ont dit, je me souviens très bien, mais ne t'inquiète pas, tu n'as rien fait de mal, parce que moi je me suis tournée vers eux en leur demandant, mais vraiment, je n'ai pas très, très bien compris ce que j'avais fait de mal. Ils m'ont dit, mais tu n'as rien fait de mal. Continue à enrichir et à faire vivre ton imaginaire. C'est le plus important. Et je les ai écoutés.
Et donc, vous avez compris à ce moment-là, j'imagine qu'il y avait une dualité, que vous aviez le droit justement d'enrichir cet imaginaire, que tout était possible et qu'en même temps qu'il allait y avoir des obstacles.
Ah, l'imagination, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Hein. Et d'ailleurs, créer une entreprise dont la raison d'être est développer l'imagination, il faut se lever tôt pour convaincre, effectivement. Mais en tout cas, je remercie mes parents, puisque à partir de ce jour-là, ils m'ont dit « tout est possible, tu peux tout faire ». Et moi, j'ai été élevée avec cette phrase-là « tu peux tout faire ». Et c'est ce qui m'a poussée à devenir entrepreneur.
Et ça ne vous a jamais quitté ?
Plus jamais.
Justement, cet imaginaire est toujours là lorsque vous entrez à l'école de design Strat à Paris. Vous avez l'envie très forte à ce moment-là que cet imaginaire, que ce monde imaginaire puisse se transformer en un projet concret. Et cela devient réalité le jour où vous organisez une soirée chez vous.
Oui, effectivement, quand je suis rentrée à Strat, alors moi, il n'y a aucun entrepreneur dans ma famille, donc je ne savais pas trop ce que c'était. Même ce mot-là, je ne l'avais, je crois, jamais entendu. Mais je savais que je voulais mener mes propres projets. J'avais un besoin de liberté et d'autonomie dans les projets que je voulais mener. Donc, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait, sans savoir que le mot était entrepreneur, mais finalement, tu veux être entrepreneur, tu vas être entrepreneur. Et en fait, en quatrième année, je faisais une soirée chez moi. L'envie de créer, donc du coup, un projet, une boîte. Et il s'avère que mes trois associés sont arrivés les trois premiers à la soirée que j'organisais.
Les trois futurs associés, parce que vous ne saviez pas encore.
Les trois futurs associés, oui, exactement. Et donc, je me souviens très bien, ils rentrent chez moi, ils s'assoient sur le canapé, posent une bouteille de vin sur la table basse. Et là, je leur dis, vous ne voulez pas qu'on monte une boîte ensemble ? Et je me souviens très bien, donc Igor, mon associé présent, me dit, mais c'est dingue, on vient d'en parler dans le métro. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est vu, je crois, toutes les semaines jusqu'à ce que l'idée de la fabrique à histoire et l'Uni émerge et qu'on ait quelque chose de concret à développer. Mais on savait qu'on allait monter une boîte ensemble. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé et qui tient toujours, ce qui est quand même rare dans le monde des associés.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est trois. On était quatre au départ. On a toujours la même vision, les mêmes valeurs, la même envie de développer l'Uni.
Et l'Uni, du coup, vous le présentez comme projet final pour votre école. Et c'est un énorme succès. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, la fabrique à histoire de l'Uni. Donc, c'est mon projet de diplôme. Donc, je pense qu'on l'a compris. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par l'imaginaire et donc par les contes, les mythes, les légendes. En dernière année, on demande à l'étudiant d'écrire un mémoire sur la thématique de son choix. Moi, sans hésiter, je fonce et j'écris mon mémoire sur l'imaginaire, la place de l'imaginaire avant, comment l'imaginaire a changé justement de place quand la science a pris de plus en plus de place dans la vie de l'homme et sa place aujourd'hui, quelle est la place de l'imaginaire aujourd'hui. Et donc, c'est en écrivant la dernière partie de mon mémoire que j'ai un peu pris peur puisque j'ai pu observer que la créativité des enfants était en baisse à cause de l'émergence du numérique et de la surexposition aux écrans. Et donc du coup, je me suis dit, mais oh là là, si on va là-dedans, l'enfant, il va avoir de moins en moins d'imaginaire, ce qui est très important pour son bon développement. Ça permet de la résolution de problèmes, de développer un esprit critique, bien évidemment sa créativité, la connaissance de soi. Et donc du coup, peur de ce constat, je me suis dit, il faut créer un objet qui les éloigne des écrans et qui soit une alternative pour développer leur imagination.
Et là, vous le présentez au jury de l'école qui vous dit ?
Coup de cœur, félicitations du jury. Moi, j'étais surexcitée et dans cette énergie, le directeur de Strat m'a encouragée à postuler à une subvention de la région Île-de-France qui permet en fait de financer le prototypage de projets pour le présenter ensuite au festival Futur en scène. Maintenant, il s'appelle Futur. Et donc du coup, on a postulé, on a eu cette subvention, on a prototypé pendant des mois pour créer la fabrique à histoire et on a pu le présenter à Futur en scène.
Ça veut dire quoi, prototyper ?
Prototyper, c'est partir à l'aventure avec des nouveaux matériaux, avec là en l'occurrence c'était un produit électronique et c'est...
Et vous n'y connaissez rien ?
Alors moi j'ai une formation de designer, donc je savais quand même comment maqueter des projets, mais c'était la première fois effectivement que je faisais un projet d'aussi grosse envergure en termes d'électronique. Donc heureusement qu'on avait un ingénieur dans la team pour pouvoir s'occuper de cette partie-là. Thomas aussi, qui est naturellement un bricoleur de génie, qui a pu savoir quels matériaux, comment modeler, comment voilà. Et puis moi, qui drivais tout ça en disant voilà ma vision de la fabrique à histoire, voilà les fonctionnalités. Et donc du coup, c'est un peu le cliché de l'entrepreneur qui reste cloîtré pendant des mois chez lui à faire son projet. Et puis enfin, Futur en scène arrive pour qu'on puisse tester et voir si ça pouvait plaire aux enfants et aux familles.
Et vous gagnez le prix du public, on en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup Maëlle. En 2016, après donc plusieurs années de travail avec vos associés, naît l'UNI, la fabrique à histoire qui connaît tout de suite le succès dont on a parlé. Vous venez de vendre 1 million de fabriques à histoire. Marie-Christine Levé, Maëlle Chassard, vous avez plusieurs points communs. Le premier, c'est évidemment l'intuition, le flair, qu'il fallait apporter votre pierre à la transformation de l'éducation. C'est un édifice, on l'a dit, qui est difficile à bouger et qui se trouve face à des enjeux gigantesques. Et toutes les deux, vous avez eu cette intuition-là. Deuxième point commun, c'est vous avez connu des entreprises en hyper-croissance. Alors, comment on fait pour gérer ça ? Parce que ça peut paraître le rêve, mais en fait, je pense que ça ne doit pas être si simple. Troisième point, c'est l'importance pour vous, pour chacune d'entre vous, du Made in France, à la fois en tant qu'enjeu de la relocalisation, du fabriqué localement et puis enjeu de souveraineté nationale. Comment concrètement vous avez fait ? Je vous propose d'échanger sur ces trois sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. Le premier point, c'est l'éducation. Vous avez senti que c'était un enjeu clé avec des défis énormes à relever pour s'adapter au monde d'aujourd'hui, pour préparer nos enfants à avoir un temps d'avance pour celui de demain. Marie-Christine, vous êtes arrivée tout juste au début de ce marché. Aujourd'hui, l'EdTech, c'est-à-dire les technologies de l'éducation, c'est un secteur qui pèsera en 2025 500 milliards d'euros. C'est gigantesque. Vous sentiez cette possibilité, ce potentiel-là à cette époque-là ? Et est-ce qu'autour de vous, vous arriviez à transmettre ça ? Vous avez dit que vous avez vu des fonds aux États-Unis, mais en France, comment ça se passait ? Est-ce qu'on vous prenez un peu pour une folle ou pas du tout ?
Alors, c'est clair, ça a été le parcours du combattant parce que voilà, les gens me disaient « Oh là là, vous vous attaquez à l'éducation nationale ne bougera jamais, le mammouth, etc. » Alors que bon, l'EdTech, ce n'est pas que l'éducation nationale. L'EdTech, c'est vraiment comment on utilise l'innovation, que ce soit une innovation technologique, une innovation d'usage de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle. Et je me disais qu'on ne pouvait pas rester sur du statu quo. C'était pas possible. Il fallait vraiment, je pense que la technologie, l'innovation peut apporter énormément de choses à plein de secteurs et il fallait que les secteurs d'éducation en profitent pour l'avenir de nos enfants,
et
pour
ça,
l'avenir
vous
d'une,
le sentiez, vous
d'une
étiez
société.
Convaincue.
Oui, j'en étais convaincue et je pense que voilà, l'éducation est de la clé de voûte de toute une société. Moi, je suis un pur produit de l'éducation. J'ai fait mes études au lycée des Mureaux, et donc les Mureaux, deuxième ville criminelle de France, et l'école m'a tout donné. Et je me disais aussi, voilà, j'étais ce pur produit de l'école de la République et je me disais, j'ai envie aussi de redonner ce qu'on m'avait donné quand j'étais plus jeune. Et je trouve que l'éducation est le faisceau de notre société. Et il faut que cette éducation change. Alors là, on le voit effectivement. Alors là, le Covid a été un catalyseur pour le marché de la tech, puisqu'on a gagné 5 à 10 ans en termes d'adoption de nouveaux usages. Toutes les personnes, que ce soit les enfants, les parents, les profs, ont expérimenté des produits tech, souvent peu formés et mal préparés. Donc on a vu aussi le vide abyssal qu'il y avait dans ce secteur et la nécessité immédiate de le réformer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de l'éducation fait face à beaucoup de challenges. Il n'y aura pas assez de profs dans le monde entier pour éduquer la planète. L'éducation d'aujourd'hui prépare très peu au monde de demain. Maëlle l'a dit, on ne prépare pas assez à tout ce dont on a besoin dans la société pour réussir, à savoir travailler en groupe, collaborer, l'esprit critique. Il y a une addiction aussi aux écrans qui se crée, puisque les enfants passent plus de temps aujourd'hui devant les écrans que dans les salles de classe. Donc à un moment donné, on va arriver devant un mur et il faut changer les choses. Donc on voit les premiers secteurs qui ont été totalement bouleversés, c'est le secteur de la formation professionnelle et de la formation continue. Là, il y a vraiment eu un énorme bouleversement. Les gens, le diplôme à vie que moi j'ai connu est fini. Je pense que demain, les gens vont alterner des périodes de formation, d'entrepreneuriat, de salariat. Voilà, donc on va se former tout au long de sa vie. Les compétences vont être très vite obsolètes. Donc voilà, ces secteurs sont en plein bouleversement.
Mais ça, vous le constatez aujourd'hui. Mais à l'époque, quand vous dites que c'est le parcours du combattant, on ne le voyait pas.
Ça a été le parcours du combattant. Mais on a eu, voilà, on a, donc pour faire ce projet, voilà, je me suis dit, je ne vais pas le faire toute seule. Donc voilà, je me suis dit, tiens, c'est bien de le faire avec une autre femme. Parce que je trouvais que c'était bien que deux femmes portent un projet sur l'éducation. Et donc j'ai, voilà, j'ai été chercher une femme aussi plus investisseuse que moi. Parce que moi, j'étais plus entrepreneur qu'investisseuse. Et donc j'ai rencontré Lydie, ma cofondatrice. Et voilà, qui a eu aussi l'envie de mener ce projet et qui a tout laissé tomber parce qu'elle avait une belle place à la BPI, vous voyez, très confortable, etc., pour voilà, lancer le projet de zéro avec moi. Et toutes les deux, on a parcouru voilà, le monde et on a eu la chance de rencontrer bah, soit des grands patrons qui nous ont fait confiance. On a rencontré le président d'Hachette, Arnaud Nourry, qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier, la société Bayard, Pascal Ruffnat. Voilà, on a rencontré des patrons de groupes qui voyaient bien que la société, le secteur s'est bouleversé. Et ensuite, on a eu plein d'entrepreneurs et des familles qui nous ont fait confiance. Donc la famille Décathlon qui nous a vraiment fait confiance, qui nous a dit voilà, nous on pense qu'on a envie de redonner à la société ce que la société nous a donné. On a fait voilà, une belle fortune et pour nous l'éducation est fondamentale. Donc beaucoup de familles du Nord, de la France, des entrepreneurs, tels Xavier Niel, des connus, mais aussi des moins connus. Voilà.
Et pourquoi c'était le parcours du combattant?
Parce que c'est autant de rendez-vous à faire, il faut convaincre. Et c'est vrai qu'au départ, les financiers plus institutionnels nous disaient voilà, vous êtes un premier fonds, vous n'avez pas travaillé ensemble, vous êtes une première équipe. Voilà, donc à un moment donné, on viendra au deuxième fonds. On est dans des milieux assez classiques, voilà, qui fonctionnent avec des codes. Voilà, il fallait un peu briser les codes.
Et comment vous avez fait?
On n'a pas lâché. Hein. Je pense que toutes les deux, la persévérance est notre caractéristique clé. Voilà, et on a convaincu, je pense, voilà, parce que beaucoup de gens avaient la même constat que nous. Parce que c'est vrai qu'on était un des rares fonds managés par deux femmes. Il y avait des parcours différents que des purs parcours financiers dans un secteur tout nouveau.
Oui, en plus, un fonds, c'est-à-dire il faut lever vous-même des fonds, voilà, 47 millions, voilà, pour ensuite pouvoir voilà, investir dans des entreprises.
Oui, donc
il faut convaincre, vous avez
le même parcours que les entrepreneurs.
Ça vous inspire quoi, Maëlle?
Ah bah, je trouve c'est impressionnant et puis je me retrouve dans le fait de persévérer, tout le temps persévérer. Et puis je suis d'accord avec toi, Marie-Christine, tout est une question d'éducation. Il y a une frustration, je trouve, qui est que effectivement, on le disait tout à l'heure, le milieu du travail change à toute vitesse et par contre l'école change mais à pas de fourmi. Et on a quand même la chance d'avoir une belle éducation en France, mais il y a encore plein de choses à changer. Il y a encore des aberrations où les enfants, ils sont pas du tout dans un milieu qui met en valeur leur unicité et leur talent. Et donc du coup, bah, à nous aussi de trouver les nouveaux usages qui puissent leur servir pour qu'ils puissent se développer sainement.
Et vous avez senti que c'était la bonne voie quand vous avez remporté le prix du public du festival Futur en scène, dont on parlait juste avant? C'est à ce moment-là où vous vous êtes dit, il y a un truc, on est sur la bonne voie, ou vous saviez dès le départ que c'était le bon chemin?
Alors moi, je suis une idéaliste dans l'âme, donc j'avais ce rêve, en tout cas, effectivement, en tête. Mais c'est différent d'avoir auprès d'un jury d'adultes un coup de cœur, des félicitations, et puis entre les mains de l'utilisateur, en l'occurrence nous, les enfants, qui est le public le plus difficile, voir si ça leur plaît, finalement. Et effectivement, bah, Futur en scène, quand on a vu que les enfants passaient mais parfois plusieurs heures sur notre stand et écoutaient des histoires, plusieurs histoires d'affilée, on s'est dit ok, là on peut y aller puisque en fait on a la preuve que la Fabrique à Histoire fonctionne.
Comment on sait qu'on est sur la bonne voie? Parce que toutes les deux vous étiez pionnières sur ces sujets-là. Comment on le sent?
Je pense que c'est dans les tripes.
Je dirais que
on le fait pas pour être dans la bonne voie. Oui, on le fait parce qu'on a vraiment envie de le faire. Moi, c'est pour ça que quand des fois les gens me disent voilà, je veux faire une société pour gagner de l'argent, etc. Et c'est vrai que c'est bon. Il y en a certains qui ont énormément gagné d'argent, et tant mieux pour eux. Mais en général, je trouve que les bons entrepreneurs le font pas pour ça. Ils le font avant tout pour voilà, une idée qui leur colle aux tripes, dont ils ont envie de faire éclore, de faire réussir. Et ensuite, le reste vient.
Oui, ça vient complètement des tripes. Après, quand on est, pour nous, sur un projet aussi compliqué qu'un projet hardware, qui est autre chose qu'un projet pure SaaS, un vrai produit, on a quand même eu des points de validation qui nous ont dit « Ok, on peut passer à l'étape d'après ». Donc, il y a eu le diplôme qui a validé que ça plaisait. Ensuite, il y a eu la première fois qu'on a fait tester à Futur en scène. ce qui nous a permis de passer en phase de production d'industrialisation. Une fois qu'on a eu le produit industriel entre les mains, on s'est dit c'est bon, on peut lancer une production. Et après, dans tout ce chemin-là, il y a quand même des paris, de l'audace. Nous, par exemple, ça a été de produire la première année 20 000 pièces. Bah, si je dois conseiller un entrepreneur qui fait du hardware demain, je ne lui conseillerais pas de se lancer avec 20 000 pièces la première année.
C'est gigantesque.
Ouais, nous, c'est ce qu'on a fait. Après, on ne l'a pas fait complètement à l'aveugle, mais effectivement, au lieu de... On aurait pu faire une production plus petite. Mais ça a marché puisqu'on les a écoulés ces 20 000 pièces la première année.
Comment vous avez fait ? Parce que vous lancez l'Uni et tout de suite, 20 000 produits, 20 000 fabriques à histoire entre vos mains. Comment vous faites ?
Alors, il y a de la facilité, il y a eu aussi beaucoup de sueur. On a démarché dans un premier temps Nature et Découverte et Auxibule, Éveil et Jeu, qui étaient les deux enseignes en fait, chez qui on se voyait d'emblée. Pour Nature et Découverte, par exemple, on s'est rendu à une boutique, on a demandé à une vendeuse comment est-ce qu'on peut vendre notre produit. Très très naïf, hein, vraiment très très naïf. Comment on peut vendre ce produit chez vous ? Elle nous a donné le contact du directeur des achats de Nature et Découverte, qui a répondu à notre mail dans les 10 minutes. On s'est rendu à leur siège social, ils ont eu un coup de cœur pour le projet et ils ont attendu presque 2 ans qu'on soit prêt industriellement parlant pour le commercialiser avec nous. Et ça a été pareil pour Auxibule, et ce qui a fait que les planètes se sont alignées et on a été meilleure vente tout de suite chez eux dès août-septembre 2016. Et puis après, quand même, pour être présent dans d'autres enseignes, on s'est bougé, on a retroussé nos manches et on allait les voir et on y croyait très très fort, mais parfois il a fallu porter notre voix pour dire mais si, je vous assure, il faut absolument que vous vendiez la fabrique à histoire. Ça a été aussi pour nous un parcours du combattant à certains moments. Ça n'était pas aussi facile qu'on peut le rêver.
Oui, parce qu'en plus, Nature et Découverte vous a pas acheté, ou Auxibule ne vous ont pas acheté 20 000 pièces d'un coup. C'était par petits bouts.
C'était par petits bouts. C'était des centaines de pièces par centaines de pièces. On ne savait pas si on allait les vendre, ces 20 000 pièces.
Comme quoi, c'est aussi une belle histoire, l'Uni, en soi. Il n'y a pas que dans la fabrique à histoire. C'est l'histoire en elle-même qui est très belle. Marie-Christine, vous financez l'Uni. Pourquoi vous avez choisi Maëlle, ou pourquoi Maëlle vous a choisi plutôt?
Alors, je me rappelle, donc, avant même que Edu Capital soit créé, on avait entendu parler de l'Uni. Donc, nous, on n'avait pas encore l'argent. Hein, et Maëlle est venue nous voir. Je me rappelle, on était dans un tout petit bureau d'emprunt. Voilà, des amis nous avaient prêté avant qu'Edu Capital se fasse. Et Maëlle nous a apporté une boîte à histoire. Je pense que c'était un des premiers prototypes qui devait arriver. C'était en 2016. Donc, l'avantage, c'est qu'on a des enfants entre nous qui couvrent de 3 ans à 16 ans. Donc, on teste les produits. Moi, c'est ma croyance fondamentale, quoi. Ce n'est qu'un bon produit qui peut réussir. S'il n'y a que du marketing derrière et tout, ça ne marche pas. Et Lizzie donne le produit à son fils. Et son fils ne quitte plus le produit. Ça devient son doudou. Il écoute tout le temps. Et je crois que maintenant, il a 8 ans. Il écoute encore la boîte à histoire. Enfin, parce qu'il a grandi depuis. Et donc, on se dit quand même, ce produit est exceptionnel. Et je me rappelle, l'Uni était dans un salon. On était dans salon en Allemagne. Et on va dans ce salon. Et on se dit, bah, tiens, on va aller voir l'Uni. On va les convaincre qu'ils doivent lever de l'argent avec nous. Parce que c'est aussi un choix des deux côtés. Et je me rappelle, l'Uni ne voulait pas d'investisseurs classiques. Et on lui a dit, voilà, qu'on était aussi des entrepreneurs et qu'on voulait les aider. Et puis, à un moment donné, voilà, il faut aussi de l'argent pour développer sa société. C'est comme ça qu'on a rencontré l'Uni. Et nous, voilà, on avait cette conviction profonde que pour les petits, il ne fallait pas d'écran. On avait vu énormément. Nous, on reçoit plus de 200 projets par an. Donc, on les analyse, on les regarde tous. Et on avait vu plein de projets pour les tout petits, avec des projets avec beaucoup d'écran qui excitent les petits, qui créent de l'addiction. Ou des projets de robots, d'objets connectés, mais des projets qui coûtent très cher. Nous, on veut aussi démocratiser l'éducation, hein, donc des projets qui ne correspondent pas à un marché et ou qui finissent au placard. Et l'Uni, pour nous, ça répondait à pas d'écran pour les petits, un produit aussi abordable pour toutes les familles, c'est important, et un produit qui ne reste pas au placard. Donc ça réunissait toutes les catégories, et c'est le seul produit qu'on a financé dans cette catégorie, parce que c'était notre culture aussi.
Oh, ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui, moi je me souviens très très bien aussi quand on s'est rencontrés à l'IFA Berlin, tout à fait, en 2017. On a eu besoin de lever des fonds l'année d'après, donc en 2018-2019, et c'est à ce moment-là qu'on a revu notre position de base, et qu'on s'est souvenu effectivement de ce beau fonds d'investissement qui réunissait beaucoup de choses qui faisaient qu'on avait envie d'aller vers Marie-Christine et Lydie, notamment les valeurs, l'envie de bouleverser ce secteur. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est redirigé vers vous pour commencer une nouvelle aventure ensemble.
Deuxième sujet, deuxième point commun, l'hypercroissance. Vous avez toutes les deux connu ça. Ça fait rêver quand on passe, comme vous, Maëlle, de 2 millions à 7,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Mais comment on gère ça?
Comme on peut, parce que déjà, mes associés et moi, on est primo-entrepreneurs. Donc, on sort d'études et on crée notre première boîte. Donc, aucune expérience en entreprise, tout simplement. Et pas d'expérience non plus en management, en structuration, rien. Donc, effectivement, quand on a vécu, et je dirais, alors, je vais être un peu négatif si je dis subi, mais il y a un peu de ça quand même. L'hypercroissance, c'est que tout se passait super bien au niveau des ventes, on se déployait. Bon, il a fallu être parfois financé et être réactif au niveau de la trésorerie, mais on était concentré sur les ventes de la Fabrique à Histoire, sans forcément trop regarder le fait que la boîte grandissait aussi en termes de personnes qu'on recrutait. Je me souviens, à l'époque, c'est moi qui m'occupais de tous les recrutements, donc c'était assez, assez intense comme rythme. Et puis, à un moment donné, on a regardé la société en 2019 et on s'est dit, oh là là, ça va trop vite, il faut qu'on fasse une, alors pas une pause, mais il faut qu'on s'arrête là, qu'on prenne le temps de structurer et de mettre des bons fondements de boîte, donc définir les valeurs, répartir en pôles d'expertise, mettre des managers expérimentés à la tête de ces pôles pour qu'on ait des personnes de confiance qui puissent exécuter la vision. Et ça, bah, pareil, on a appris sur le tas, donc on a dû changer de métier, c'est-à-dire devenir entrepreneur, bah, nous aussi manager, puis dirigeant d'entreprise, ce qui est complètement différent. Donc, on apprend sur le tas, en fait.
Et vous, vous sentiez comment ?
Ça a été à la fois très excitant, parce que en fait, j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc, apprendre un nouveau métier, c'était vraiment très épanouissant pour moi. Et puis, à un moment donné, je me suis aussi moi-même recentrée pour me dire, OK, après avoir expérimenté tout ce panel, qu'est-ce que je veux finalement et quelle dirigeante d'entreprise j'ai envie d'être ? Moi, aujourd'hui, je porte la vision chez l'UNI. Je m'occupe principalement des nouveaux projets, des valeurs, de la stratégie moyen-long terme et de définir tout ça. Et effectivement, la partie exécution est pilotée par mon associé Igor.
Mais tout ça, il faut l'écrire, il faut le décider, c'est ça ?
Il faut l'écrire et il faut le décider tout à fait. Il y a eu beaucoup de moments où on s'est retrouvés entre associés pour redéfinir les rôles. C'est à ce moment-là que Igor et moi, on a pris la tête de l'entreprise en tant que co-dirigeant, co-CEO, et que Thomas et l'autre associé s'est dirigé vers un métier plus opérationnel, toujours dans ce qu'il aime faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il prototype les nouveaux projets chez l'UNI. Donc, j'avais dit qu'il était un bon bricoleur. Voilà, il a trouvé son métier. Et puis après, il faut l'écrire, il faut le tester, il faut regarder si on est bon, il faut voir si, là où on a envie de s'améliorer. Donc on se fait aussi coacher, parce qu'en tant que primo-entrepreneur, on a nous aussi tout à apprendre.
Ouais, parce qu'il doit y avoir des remises en question aussi, hein, c'est, ça bouscule constamment.
Constamment.
Vous vous reconnaissez, Marie-Christine, dans ce qu'a vécu Maëlle au moment de l'hypercroissance? Je pense à l'ICOS, mais certainement aussi le fond.
Oui. À un moment donné, c'est clair qu'il faut il faut structurer sa société, tu vois, mettre des process et sans perdre la créativité. Donc c'est là toute la difficulté. Hein. Et donc voilà. Donc moi, je l'ai expérimenté chez Club Internet. J'avais 500 personnes à gérer, une hypercroissance. On est passé de 70 millions à 400 millions. Voilà. Et on l'a mis en place en ayant des bons managers. Différents niveaux, en ayant aussi des process, vraiment des process pour gagner du temps, pour travailler en groupe, parce que bon, là, on travaille moins en groupe. C'est plus difficile que quand on est 4-5, qu'on se croise dans la machine à café. Et nous, le but d'Edu Capital, c'est non seulement d'accompagner en mettant de l'argent, mais nous, notre volonté, c'est vraiment d'aider les entreprises dans leur réflexion, dans leur structuration. Alors, à des moments différents, certains en ont besoin, d'autres moins, mais moi, je vais jusqu'à interviewer des dirigeants, que des entrepreneurs veulent recruter, ils hésitent entre des dirigeants, ils me disent, tiens, si tu peux me donner notre avis, les challenger sur l'organisation qu'ils mettent en place. Donc c'est vraiment pas seulement un accompagnement financier, mais un accompagnement aussi beaucoup dans la structuration de la société, les bons choix. Est-ce qu'on va à l'étranger tout de suite? Est-ce qu'on y va plus tard? L'entrepreneur, il doit faire face à plein de choix toute la journée.
Et ça, il y a que l'expérience.
Et aussi de dire non. Il faut surtout dire non et rester focus. Le pire qui peut arriver dans une entreprise en hypercroissance, c'est de vouloir faire trop de choses et de perdre le focus. Donc c'est vraiment une des choses essentielles.
Oui, nous, on est tombés dans ce piège-là, de vouloir faire trop de projets, trop de pays en même temps. C'est-à-dire qu'en 2018, on a voulu se lancer à faire tous les pays d'Europe en même temps, les États-Unis. En fait, ce qui est génial avec la fiction audio, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais du coup, il faut, à un moment donné, se recentrer et sélectionner les bons projets et pas tous en même temps, parce que ce n'est pas possible. Donc, on a dû être confronté à faire des choix et de faire les bons choix pour l'entreprise.
J'imagine que c'est pas simple. En plus, vous avez chacune choisi le Made in France. Marie-Christine, pour vous, c'est essentiel. logiciels. Vous êtes devenue finalement aussi à la fois lanceuse d'alerte, à la fois porte-parole du Made in France pour l'éducation, de la souveraineté française.
C'est essentiel de préserver notre souveraineté éducative. On l'a vu hein, pendant la période de confinement, il y a eu finalement faute d'outils et services français et européens. On s'est précipité sur les outils des GAFAM hein, qui ne sont pas faits pour l'éducation. Donc voilà, les professeurs ont fait des classes même sur Discord. Voilà. Donc il y a un enjeu essentiel à créer des champions français et européens pour, voilà, pour préserver notre souveraineté éducative, pour faire en sorte que voilà, les données des enfants ne soient pas à Seattle ou demain à Delhi, parce qu'il y a des très belles sociétés tech indiennes. Voilà, il y a un enjeu fort. On a un très bon niveau d'éducation en France, hein, mais malheureusement ce niveau baisse. Hein, on ne fait que baisser dans les classements PISA pour reprendre la main sur ce sujet. Et pour nous, ça se fera en cassant un peu le système, en ayant beaucoup plus de liberté pédagogique donnée aux enseignants. L'enseignant est clé hein, dans l'école, c'est lui qui transmet. Donc il y a énormément de sujets sur la revalorisation du métier d'enseignant, la formation des enseignants, parce qu'en général ils sont peu formés au numérique. Et ensuite, il faut leur laisser la liberté de choisir les outils dont ils ont besoin. Celui qui ne veut pas de numérique, il ne faut pas le forcer, ça ne sert à rien. Nous, on a investi dans une société danoise qui s'appelle Labster, qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Aujourd'hui, il y a une désaffection dans les études des sciences, principalement des femmes, hein, qui ne choisissent pas d'aller dans les matières scientifiques, et ce qui est terrible, puisque de plus en plus, quand même, le scientifique est près des postes de pouvoir. Hein, donc voilà, les femmes, par elles-mêmes, se privent de plein de métiers dans des filières technologiques ou scientifiques. Et à un moment donné, en manipulant, en rendant l'apprentissage scientifique plus gamifié, on arrive à mieux engager les jeunes dans ce domaine. Et donc c'est pour ça que voilà, l'innovation peut apporter énormément de choses.
Donc vous avez un métier en plus, finalement, qui n'était pas là au départ. Au départ, c'était un fonds, c'était investir dans des entreprises innovantes. Aujourd'hui, vous êtes sur conseiller, faire du lobby, alerter, c'est ça?
Voilà, on essaye d'alerter. Après, notre métier principal, c'est quand même d'accompagner nos entrepreneurs.
Oui, mais ça, j'imagine, c'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur. Et
Oui, parce que je pense que voilà, on a une responsabilité en tant que citoyen de lancer des alertes sur ce sujet. Je pense que le gouvernement l'a compris. Il va y avoir beaucoup d'argent sur le numérique éducatif. Après, il faut que ça aille assez vite. Il faut éviter de créer des usines à gaz. Il faut voilà, construire des projets agiles qui se développent rapidement, un peu dans une logique de partenariat public-privé.
Et vous, Maëlle, au moment où ça commence à vraiment très très bien marcher, vous imaginez faire une V2 de l'Uni, vous faites appel à plein de bureaux d'études. Et là, qu'est-ce qui se passe devant ces bureaux d'études?
Bah, tu disais tout à l'heure, Marie-Christine, qu'il faut savoir dire non. Et pour nous, ça a été le moment où il y a eu le plus gros non. Donc effectivement, on est à l'été 2018, on est très très fort de notre croissance. On commence à faire de très beaux chiffres, de très belles ventes. Il est temps en fait de se poser un petit peu pour réfléchir à la V2 de la Fabrique à Histoire et qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme amélioration à cette Fabrique à Histoire. Et on travaille avec notamment un bureau d'études français qui nous amène plusieurs prototypes avec la Fabrique à Histoire qui peut vibrer, qui peut clignoter en fonction de ce qui se passe dans l'histoire. Et en fait, moi, c'est à ce moment-là où j'ai fait « Wow, attendez, on se reconcentre, la Fabrique à Histoire, là, elle est en train d'être dénaturée. L'essence, justement, de l'objet, de ce bel objet, il est en train d'être enlevé par trop de choses, trop de fonctionnalités. Et moi, quand je l'ai créé au démarrage, c'était vraiment les fonctionnalités nécessaires à son bon usage pour qu'il y ait un usage aussi qui soit intuitif par l'enfant, que l'enfant, quand il l'a dans les mains, il sait directement comment ça marche et on n'a pas besoin de lui expliquer. Et là, le fait de rajouter trop de choses, en fait, ça lui a enlevé son essence primaire. Et donc, du coup, il y a eu un gros non à ce moment-là, mais un gros oui pour, en fait, ce qu'il y a amélioré aujourd'hui et ce qui nous ramène au démarrage de « on doit produire en Chine au lieu de produire en France », c'était à ce moment-là où je me suis dit « bah non, en fait, il est temps, on a les moyens de pouvoir rapatrier la production en France ».
C'était un gros choix parce qu'aujourd'hui, ça paraît un peu plus évident depuis la crise, mais en 2018, ça l'était beaucoup moins. Donc, rapatrier toute la chaîne de production ou tout ce que vous pouviez en France. Comment vous avez fait ?
Tout à fait. C'est en 2018, c'était pas une mince affaire. Et puis, on nous regardait un petit peu comme des ovnis puisque l'usage était de fabriquer des produits électroniques en Chine parce que bah, plus pratique, moins cher, etc. Et nous, en fait, c'était dans nos valeurs d'entrepreneurs d'honorer cette promesse qu'on s'était fait au démarrage. Donc, il faut savoir que nous, on a produit en Chine parce que quand on a commencé à vouloir industrialiser les usines, les volumes qu'on avait pour les usines françaises et les coûts de démarrage, nous, on n'avait pas les moyens. Du coup, on est allé produire en Chine pour que le projet voit le jour, mais voilà, en se faisant la promesse de rapatrier la production en France. Et quand on a eu les moyens de le faire, ça a quand même été un projet qui a eu énormément de coûts de départ, puisqu'il faut investir dans des machines pour que le produit soit concurrentiel avec l'Asie, avec la Chine. Il faut qu'il soit semi-automatisé ou automatisé dans sa production. Donc, il a fallu choisir le bon partenaire, il a fallu redéfinir toute la carte électronique à l'intérieur pour qu'elle soit fabricable en France. Ça nous a permis aussi d'améliorer la qualité à ce moment-là. Et puis après, on a fait un appel d'offres à l'échelle mondiale, parce qu'on ne savait pas encore si les industriels français allaient répondre présents à cet appel d'offres. Et il s'avère qu'on a été très heureux que ce soit effectivement l'usine BMS, donc notre partenaire actuel, qui a le mieux répondu à l'appel d'offres. Et c'est avec eux qu'on a monté tout le projet, donc la mise en place des machines, redéfinition de la carte électronique. On a même trouvé avec eux le packagiste et ceux qui fabriquent le plastique aux alentours de Bayonne. Donc comme ça, aujourd'hui, tout est fabriqué près de Bayonne.
Ah, ça doit être une grande fierté.
Oui, 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 très grande fierté. Et puis j'espère que ça en inspire d'autres pour qu'on puisse soit rapatrier sa production, soit directement fabriquer en France. Et effectivement, la crise Covid a permis à l'État de mettre en place des aides qui puissent aider les entrepreneurs à faire ça.
Et c'est un bilan positif aujourd'hui pour vous, la relocalisation ?
Positif. Puisqu'il rentre dans nos valeurs et on a pu jouir énormément de visibilité avec ce projet-là. Malgré tout, il est encore un peu tôt pour dire quelles sont les répercussions économiques pour la boîte. Donc on observe ça et on suit ça vraiment de près parce que c'est encore un projet tout jeune.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Écoutez, nous, on a accompagné l'UNID financièrement dans la relocalisation en France. Voilà, on trouvait que c'était important aussi de pas utiliser de plastique fait en Chine, dans ces sujets. Voilà, donc c'est aussi le rôle d'un fonds d'investissement quand on partage certaines valeurs, d'aller aussi au bout de l'accompagnement sur ces sujets.
Tout à fait. Et je tiens à rajouter que c'est pas la fin du projet. C'est-à-dire que nous, on continue à regarder pour comment améliorer la production, les matériaux, pour qu'ils soient plus responsables. Donc c'est un projet de longue haleine.
On va passer maintenant au portrait chinois parce que leur fil avec vous deux. Si vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que Maëlle de 20 ans dirait à la Maëlle d'aujourd'hui ?
Je pense qu'elle serait extrêmement fière, qu'elle ne se rendrait pas trop compte de ce que c'est toute cette aventure. Parce que comme je le disais au démarrage, le milieu de l'entrepreneuriat, moi à 20 ans, j'y connaissais rien du tout. J'étais très dans l'art, c'est ça qui me plaisait, faire des projets à sens. Et donc je pense qu'il y aurait une forme de fierté à regarder ce que j'ai pu accomplir dans, en plus de ça, un domaine qui passionne la Maëlle de 20 ans.
Et vous, Marie-Christine ?
Elle me dirait comment tu as fait et je lui dirais écoute, j'ai pas lâché, j'ai persévéré jusqu'au bout pour aller faire ce que j'avais envie. Et moi, c'est ce que je dis à mes enfants, le plus important, je trouve, dans la vie, c'est d'avoir la liberté de choisir, de faire ce qu'on veut.
Ce qui vous ressource à toutes les deux ?
Je fais des cours de yoga et de souplesse et je pense que je ne suis jamais aussi zen que quand je ressors d'un cours.
J'adore l'eau, donc je vais à la piscine régulièrement et j'adore aussi passer des vacances dans des îles. Voilà, c'est vraiment me baigner, c'est ce qui me ressource le plus.
Et la discipline de vie qui vous sauve avec vos vies très remplies ?
En ce qui me concerne, c'est d'avoir une routine matinale presque militaire, ce qui me permet de bien commencer ma journée et d'avoir l'esprit clair pour attaquer la journée. J'essaye de me lever assez tôt, à 7 heures. Je fais des étirements et un petit peu de yoga. Et puis après, j'enchaîne avec un peu de méditation, un petit déjeuner sain. J'essaye d'aller un peu marcher aussi le matin si je peux, prendre un peu les rayons du soleil. Et donc du coup, en période hivernale, parce que je souffre de dépression hivernale sévère, j'essaye de faire un peu de luminothérapie pour prendre un peu de lumière.
Donc, en tout cas, ça fait envie. Et vous, Marie-Christine ?
Je dirais que savoir s'organiser, moi j'essaie de bien manager mon temps. Voilà, typiquement ça peut être des emails, j'ai 4 boîtes d'emails différentes, des rendez-vous pas trop longs, des déjeuners que s'ils sont utiles. Voilà, j'essaie de vraiment bien manager mon temps parce que je veux aussi garder du temps pour mes enfants. Donc voilà, essayer au mieux de manager son temps et d'être efficace dans le management de son temps.
Et de quoi n'avez-vous plus peur aujourd'hui ?
D'oser aller au bout de ses rêves, d'oser porter des projets différents, d'oser entreprendre aussi. Parce que voilà, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, la Marie-Christine de 20 ans, elle baigne dans un milieu excessivement favorable à l'entrepreneuriat. Ce n'était pas le cas de la Marie-Christine d'avant. Donc je dirais, moi, j'ai plus peur de me lancer, de porter des projets nouveaux.
Et vous, Maëlle, de quoi n'avez-vous plus peur ?
Je dirais que je n'ai plus peur de moi-même. J'étais quelqu'un, pendant toute ma vingtaine, d'assez torturé sur beaucoup de choses. Du coup, aujourd'hui, je regarde beaucoup plus la vie en me disant que la vie est belle. Et donc, j'ai plus peur de moi-même et de la vie.
Ce qui est pas mal, une femme qui vous inspire.
J'ai pas eu beaucoup de rôle modèle, moi, parce que c'est vrai qu'il y avait peu de femmes entrepreneurs, peu de femmes dirigeantes. Il y en a plus aujourd'hui, mais j'ai peu eu de rôle modèle dans la partie business. Je dirais que c'est ma mère. Elle était en Tunisie, mais elle est arrivée en France. Elle s'est mariée avec un Auvergnat. Oui, un choc de culture. Elle est allée vivre en Auvergne. Elle était entrepreneur dans son pays. Voilà, elle avait dirigé un hôtel, créé un hôtel. Elle a créé une société avec mon père. Et c'est elle qui m'a dit qui m'a appris aussi l'autonomie nécessaire pour une femme, le fait de ne pas compter sur personne, d'être autonome, de faire ce qu'on avait envie de faire et d'aller au bout de ses projets. Elle m'a vraiment inculqué beaucoup de choses.
Alors de mon côté, j'aurais dit la même chose, c'est-à-dire mes parents qui m'ont élevée dans l'amour et dans le tout est possible. Et sinon, il y a Brit Marling qui est une réalisatrice écrivaine américaine qui a notamment réalisé la série The OA qui nous plonge dans un monde imaginaire fantastique. Et c'est pour ça qu'elle m'inspire beaucoup parce qu'elle est drivée au plus profond de ses tripes par l'écriture de fiction et c'est très inspirant pour moi.
Dernière question, votre mantra ?
Ose aller au bout de tes rêves.
De mon côté, c'est une citation d'Edgar Morin qui est « La sagesse n'évite la folie qu'en se mêlant à la folie de l'amour ».
C'est beau. Merci Marie-Christine Levé, merci Maëlle Chasseur, merci à vous tous et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Dimitri Maillard et à Elisa Grenet à la réalisation. Merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Et si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci aussi pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.